a little walk to the edge of town and go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
Géopolitique et histoire des humains. Bonjour Serge.
Bonjour James, bonjour chères auditrices et chers auditeurs de Fréquence Mistral. Bienvenue dans cette émission pour éclairer nos cerveaux, nos pensées et nous faire mieux connaître notre histoire et ce qui se passe en ce moment. Donc aujourd'hui, comme vous l'a présenté Serge, James.
On finit par se confondre.
Oui, 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 c'est notre côté amical. Donc je vais vous parler de ce qu'est l'État-providence.
L'État-providence. Que veut dire État-providence, Serge ? Éclaire-nous.
Un État, c'est un gouvernement. D'ailleurs, souvent, on préfère le terme de gouvernement à État. C'est le gouvernement d'un peuple, qu'il soit souverain ou qu'il ne soit pas, c'est son gouvernement. La providence, il y a un caractère religieux. La providence, c'est ce qu'on appelle la décision de Dieu. Il y a une essence divine, c'est la protection des dieux. C'est ce qu'on retrouve dans le fatalitas des chrétiens, c'est ce qu'on retrouve dans le mektoub des musulmans. Voilà, c'est pas nous qui décidons, c'est Dieu. Tout régime politique, quel qu'il soit, et depuis la nuit des temps, se doit de protéger son clan, son fief, son royaume, alors qu'il s'appelle empereur romain ou qu'il s'appelle ou qu'il soit sultan ou qu'il soit roi ou qu'il soit pape ou qu'il soit chef de tribu ou chef de clan, peu importe, la fonction du chef, c'est de protéger son clan et son peuple. Donc, et le peuple, en attendant, il accorde ce statut de chef à celui qui est le plus à même de le protéger, soit militairement, soit en rendant la justice, soit en garantissant sa nourriture. C'était déjà un principe qui était connu chez les Égyptiens. Les Égyptiens ne faisaient pas construire des pyramides. Ils avaient des règles à calculer le long du Nil et ils pouvaient prévoir les crues du Nil et donc les récoltes des Égyptiens, ce qui fait que pendant des milliers d'années, les pharaons d'Égypte ont pu régner sur la vallée du Nil en son complet et ses abords. Donc quand on parle d'État-providence, c'est pas quelque chose qui a été inventé comme ça au 19e siècle. C'est quelque chose qui remonte en fait aux philosophes des Lumières, qui préféraient d'ailleurs ce terme au terme de providence, qui préférait celui de progrès. On devrait plutôt dire état progressiste que état providence en définitive, si on voulait vraiment suivre les philosophes des Lumières et notamment Jean-Jacques Rousseau. Le premier qui a officialisé le terme d'état providence, et c'est pas innocent que je raconte ça maintenant, c'est Napoléon III. Vous savez, celui qui a enfermé tous ces basalpins qui s'étaient révoltés en 1851, après son coup d'état militaire et politique pour prendre le pouvoir, lui qui était président et qui a voulu devenir empereur et qui est resté d'ailleurs jusqu'en 1870. Eh bien, cet homme, quand il a pris le pouvoir, bien sûr, il était éclairé par sa jeunesse un peu révolutionnaire aux côtés des Italiens, mais il était surtout animé par aussi une philosophie saint-simoniste et il pensait, lui, que l'État ne pouvait subvenir que s'il garantissait un minimum aux miséreux. J'ai bien dit aux miséreux. Ce qui ne l'a pas empêché, donc Napoléon III, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, de déporter les républicains vers l'Algérie, ou de les pousser à l'exil comme Victor Hugo, ou de les fusiller sur des murs, comme ça s'est passé, par exemple, chez nous, dans les Alpes de Haute-Provence. Cet état-providence, notez bien, de Napoléon III, que l'on nous demande d'ailleurs aujourd'hui de réétudier dans les livres, dans les programmes d'histoire de première, cet état-providence de Napoléon III, il est, comment dirais-je, il est conditionné. Voilà, il est conditionné par quoi ? eh bien, il est conditionné par l'acceptation par les miséreux d'un paternalisme patronal, de la charité chrétienne, c'est-à-dire pas de ce que nous connaissons aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas du tout les solutions d'aujourd'hui qui sont la répartition de l'impôt, des impôts justes et compagnie. Napoléon III, son règne, il s'établit quand même sur des différences sociales criantes du fait de la révolution industrielle et de l'esprit de la révolution industrielle et du fait de du fait que les misérables n'ont aucun droit. Je rappelle, au XIXe siècle, pas d'école, le travail à partir de 8 ans, jusqu'à la mort. L'espérance de vie est à l'époque en France de 40 ans, c'est-à-dire que c'était une espérance de vie équivalente à celle qu'on a maintenant dans certains pays en voie de développement. Les conditions des femmes, je n'en parle même pas. Les droits des femmes, j'en parle même pas. On accouche sur les carreaux d'usine, on accouche dans l'atelier, on n'a pas de congé maternité, il n'y a pas de congé maladie, on n'a pas le droit au médecin. Quand vous avez le droit d'avoir un hôpital comme à Manosque, rue Grande, l'hospice, en fait, vous avez des hospices pour les pauvres et vous avez des hôpitaux pour les riches. Donc on n'est pas soigné de la même façon que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc le 19e siècle, c'est à la fois le siècle des nationalités, c'est aussi le siècle des révolutions industrielles, mais c'est aussi le siècle des misérables et de Germinal, d'Émile Zola, et donc et de la montée en puissance du socialisme en même temps que du suffrage universel.
Alors, qui invente les principes de l'État-providence moderne ?
Pour qu'il y ait un État-providence, il faut qu'il y ait une pensée. La pensée, en fait, elle existait depuis, hein, elle a toujours existé, mais la pensée s'est développée d'un État-providence ou d'un État progressiste. Je vais plutôt appeler ça État progressiste. D'un État progressiste, elle s'est développée, en fait, avec la philosophie des Lumières. Et surtout à partir du moment où le grand philosophe des Lumières, Jean-Jacques Rousseau, a clairement dit qu'une société ne pouvait pas se développer sans être une société démocratique où les citoyens ont pleinement leurs droits et leurs devoirs de citoyens. Donc, à partir de ce moment-là, parce que lui, il conditionnait le fait qu'on soit des citoyens au fait que les citoyens sachent lire, écrire, compter, réfléchir, et donc puissent être à même de lire les lois, de les refaire, de les discuter. Et pour ça, il faut bien avoir un système scolaire. Donc, et ce système scolaire, et ben, il a été envisagé par Jean-Jacques Rousseau, il sera ensuite plus politiquement envisagé par Condorcet avant que Robespierre ne lui tranche la tête. Il sera, ça sera la grande idée du 19e siècle, c'est d'accorder le soutien social d'un État. Donc, en fait, il ne faut pas oublier qu'avant la révolution de 1789, c'est en fait plus un état d'esprit, plus une utopie, d'accord, d'avoir un État protecteur et social. La Révolution française supprime donc l'aspect divin, d'accord, cette espèce de providence qui devait uniquement émerger de Dieu et de sa volonté, en inscrivant les droits de l'homme à la tête de l'État, et les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais c'est surtout la Première République, celle de 1792, qui va véritablement inscrire pour la première fois le devoir de solidarité nationale. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme de 1793 que l'on inscrit pour la première fois les droits à la retraite, l'abolition de l'esclavage, les droits à une santé publique, le droit à une instruction publique. Tout ceci ne sera pas appliqué du fait des guerres, du fait aussi que Robespierre est monté à l'échafaud après y avoir envoyé ses amis Danton, et que donc après il a été remplacé par des gens qui étaient un peu sans scrupules, élitistes, républicains certes, mais quand même élitistes, et que Napoléon Ier, dans le style élitiste, on n'a pas trouvé mieux. Il a bien sûr créé les lycées impériaux, mais c'était des lycées qui n'étaient destinés en fait qu'à l'élite. Donc, il faut attendre en fait la Deuxième République, celle de 1848, quand on a envoyé au loin le roi Louis-Philippe, pour que pour la première fois soit clairement inscrit à notre devise le mot de fraternité. Qui a été immédiatement appliquée par les révolutionnaires en février 48 en créant par exemple les ateliers nationaux. Sauf que les ateliers nationaux, ils avaient pour but en 1848 d'embaucher de façon plus ou moins étatique, les chômeurs des différentes communes pour faire travailler les gens qui étaient au chômage, parce que je répète, au 19e siècle, il n'y avait pas d'allocation chômage. Si vous étiez pauvre, vous étiez pauvre. Si vous relisez Victor Hugo, Les Misérables, Émile Zola, Germinal ou L'Assommoir, on est véritablement dans des pauvretés incroyables, incroyables aujourd'hui. Hein. C'est les bidonvilles que l'on voit aujourd'hui à Calcutta ou à Bombay ou au Brésil ou en Argentine. Voilà. Donc on a donc ce type de d'idée qui est mise en place, qui n'est pas appliquée. Et quand en 1848 on applique enfin quelques lois sociales, se pose le problème du financement. Alors en février, tout le monde est d'accord, on choisit le drapeau tricolore au lieu du drapeau rouge, je reviens pas sur cette histoire-là, peut-être que je la raconterai une autre fois, et on décide, la Nouvelle République décide de donc créer des ateliers nationaux. Seulement, qui finance? Qui finance? Il y a que l'impôt qui finance. Et là, il y a une classe moyenne qui dit, mais non, on ne va pas financer pour des pauvres quand même. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En juin, on les ferme. Les pauvres chômeurs qui étaient dans les ateliers nationaux sortent, bien sûr, se révoltent. Et que fait la bourgeoisie? Elle tire sur les manifestants. Hein. À l'époque, on tire avec la troupe. Hein. C'est la garde nationale qui tire. Donc, résultat des courses, ce type d'État ne perdure pas. Et puis Napoléon III, comme je l'ai dit, il préférait construire des églises et des chapelles comme Notre-Dame de la Garde plutôt que de construire des écoles. Donc, à partir de ce moment-là, d'où vient l'exemple? L'exemple, le premier exemple d'État-providence, il vient étrangement d'Allemagne. En 1870, quand le Kaiser nous a vaincus avec Otto von Bismarck comme chancelier, le problème des Allemands, c'est qu'ils avaient déjà un fort parti socialiste. Et Otto von Bismarck n'a pas supporté que les socialistes allemands de l'époque étaient pro-français. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interdit le parti socialiste. Et en plus de ça, il a dit, je les interdis, mais il y a quand même des pauvres. Alors, que faire? C'est lui qui a créé pour la première fois un État-providence. C'est-à-dire centraliser pour tous les Allemands, quelles que soient les régions et les petits royaumes où ils habitaient à l'époque, puisqu'à l'époque c'était encore fracturé en royaumes et en principautés, vous aviez des droits, par exemple un salaire minimal, vous aviez le droit à une assurance chômage, vous aviez le droit à quelque chose qui n'existait pas dans les autres pays européens. La Troisième République, elle, gaillardement s'est constituée vers 1875. Eh bien, la Troisième République, après avoir massacré les communards qui demandaient un État-providence eux aussi à leur façon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, nous, on va pas faire d'État-providence en tant que tel, mais on va créer, par exemple, les conditions d'avoir plus tard peut-être un État plus juste, c'est-à-dire qu'elle a créé, en fait, l'école publique laïque et obligatoire pour tout le monde, en tout cas pour ce qui est du primaire. C'est une œuvre incroyable pour l'époque. On ne s'imagine pas, mais il a fallu que l'État et les collectivités territoriales, puisque les bâtiments étaient à la charge des municipalités, quand ça n'était pas assez riche, c'était le préfet qui donnait l'argent pour construire l'école. Donc il a fallu construire toutes les écoles, il a fallu faire donc toute cette œuvre d'éducation. Et là, on est quand même dans les prémices d'un État-providence, c'est-à-dire d'un État qui assure un bien social, un progrès social à l'ensemble de la population, c'est-à-dire apprendre à lire, à compter, à écrire, à connaître un peu le monde. À l'époque, on faisait plus de géographie qu'aujourd'hui. Bon, je vais pas jouer les avant c'était mieux, c'est pas le but de la question, mais il faut s'imaginer que pour un petit manosquin, le fait de connaître le monde sur une map monde par son instituteur ou son institutrice, c'était une ouverture d'esprit que vous n'imaginez pas aujourd'hui. Et sans compter qu'à partir de ce moment-là, vous sortiez donc, et c'est ça qui est intéressant dans un État-providence, vous sortez donc de l'influence, des influences traditionnelles, des influences de votre religion de départ, dans celle dans laquelle vous étiez éduqué, pour arriver dans quelque chose de beaucoup plus global qui s'appelle la Constitution, une citoyenneté française qui n'était pas de mise. Je rappelle, pour que tout le monde apprenne français, il a fallu infliger des sévices aux enfants qui parlaient le patois à l'école. Je veux dire, on mettait des insignes diffamatoires, diffamants, et pas seulement le Bénédan, et pas seulement pour l'accent, comme on le fait souvent avec James. Donc voilà, on est dans cet état d'esprit-là. Seulement, attention, Toujours pas de sécurité sociale, toujours pas de droits sociaux généralisés pour tous. Quand on a des catégories, on parle beaucoup des cheminots en ce moment, mais quand on a des catégories qui ont des droits, pourquoi il faut des droits? Bah parce qu'un mécanicien, à l'époque, c'est un quasi-ingénieur aujourd'hui. Et si vous voulez garder votre mécanicien dans son, dans sa locomotive, celui que vous avez formé pendant 10 ans, si vous voulez pas qu'il parte pour aller ailleurs, bah il faut l'appâter avec quelque chose. Vous l'appâtez pas avec « Bonjour, il y a le plein emploi et puis on te garantit un emploi. » Bah, un emploi, oui, mais l'autre aussi me garantit un emploi. Et puis, si jamais on n'est pas content, on peut aussi aller dans d'autres pays pour garantir l'emploi. Donc, pour que les gens restent sur le pays et se deviennent pas encore fonctionnaires, puisque la SNCF n'existe pas encore, mais dans les compagnies privées, on donne des droits supplémentaires à des techniciens pour qu'ils n'aillent pas chez le concurrent d'à côté. C'est un peu comme quand nous, une entreprise a envie d'avoir les meilleurs, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, bonjour, je vous paye au SMIC. Ah, bah, non, mais moi, je vous paye à 2000 euros net. Ah, 2000 euros net, c'est quand même mieux que 1200 euros net, hein, voire moins, parce qu'en fonction des horaires et tout sensu, vous gagnez moins. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai une compétition au niveau des techniciens qui fait qu'un certain nombre de corps de métier qu'aujourd'hui on dit « Ah, c'est des privilégiés » et tout s'ensuit, eh bien, n'étaient pas aussi privilégiés que ça par rapport à la masse qui était autour d'eux.
Alors dis-moi, comment l'État-providence est devenu populaire dans l'opinion publique ?
L'État-providence est devenu populaire dans l'opinion publique. Alors, populaire, je mettrais peut-être une guillemet, mais je vais expliquer pourquoi. En fait, nécessaire. Nécessaire pour la population. Nécessaire pourquoi ? C'était pas trop le fait de vivre dans la misère. Ce qui a marqué les gens et le grand basculement de la société pour avoir plus de justice, c'est la guerre 14-18. Il y a 100 ans, elle s'est terminée. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui ont fait la guerre 14-18, ils sont tous allés au combat. On n'a pas de grands déserteurs, de gens qui ne sont pas allés au front. On peut toujours en trouver un ou deux, mais enfin, par rapport à la masse qui est partie. Hein. Donc tout le monde a joué son rôle. Les soldats sont partis au front, plus ou moins volontairement, volontairement quand ils étaient anglais, moins volontairement quand ils étaient français, ou allemands, ou autrichiens, ou italiens. Ils sont partis au front avec le sens du devoir. Ça peut nous paraître bizarre aujourd'hui, mais pas de révolte, on se bat pour la France, il faut sauver la patrie, nos enfants, nos familles et compagnie. Ils étaient éduqués comme ça, hein. Dans mon école primaire, je racontais ça dernièrement à mes élèves de première, mais dans mon école primaire en Picardie, c'était une vieille école primaire qui n'avait pas été touchée par les bombardements allemands, des deux guerres, c'est vous dire qu'elle a eu de la chance, celle-ci. Dans le grenier, il y avait encore des fusils en bois pour les gamins qui s'entraînaient à marcher au pas et à chanter la Marseillaise avec leur instituteur à l'école des garçons. Donc on avait encore ce type d'état d'esprit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les hommes jouent leur devoir au front. Les femmes, les familles, ont fait leur devoir à l'arrière. Très peu de manifestations. Il n'y a pas de révolte, malgré le nombre de victimes et de morts. Pas de révolte. La pression est telle, la pression nationale est telle que vous ne pouvez pas avoir de révolte. Donc, ces gouvernements, il a fallu financer aussi. Le financement de la guerre, c'était une guerre qui devait durer normalement 6 mois, avaient dit les états-majors, tant allemand que du côté français. L'offensive sera rapide, on ira à la baïonnette, dans 6 mois on est à Berlin, dans 6 mois nous sommes à Paris. 6 mois plus tard, il n'y a toujours pas la fin de la guerre, 6 mois plus tard ils sont sur la Marne, et 6 mois plus tard on rentre dans la guerre des tranchées, et c'est une guerre qui va durer 4 ans, plus de 4 ans. Donc, et c'est que pendant ces 4 ans-là, vous avez des générations de jeunes hommes, de familles qui vont aller à la guerre ou qui vont servir la guerre. Donc l'État, l'État après, il est redevable. Parce que vous ne pouvez plus dire c'est comme avant. Là, c'est plus possible. Quand on a connu Verdun, la Somme, quand vous avez des villages entiers comme Montfuron qui a été vidé de ses hommes parce qu'ils en sont tous fait massacrer sur le front, vous ne pouvez plus dire on va rester dans une société divisée et tout ça. Il faut gérer, notez bien, les mutilés de guerre, il faut gérer les orphelins, il faut gérer les veuves. Et là, c'est pas la charité chrétienne qui peut le faire, hein. C'est pas l'entreprise du coin ou le patron de la petite de la grande ferme, même la plus grande ferme n'y arriverait pas. En Picardie ou en Champagne ou dans les Vosges, il faut reconstruire les terres. James peut témoigner, mais moi j'ai encore joué, moi petit, dans des tranchées de 14-18, hein, et un jour il y a un copain qui s'est baladé avec un os, lui il pensait que c'était un tomahawk. Bon, c'est pas un tomahawk, c'était un os d'un soldat de 14 quand il est arrivé chez lui. Je vous raconte pas la tête de ses parents. Ouais, maman, t'as vu mon tomahawk? Hop là. Et ben, quand vous avez vu ça, d'accord, l'État vous est redevable. Et l'État s'est senti redevable. Donc l'impôt sur le revenu qui a été inventé en 1915 pour échapper un peu à la critique qu'on pouvait déjà poindre sur le front, il y a des profiteurs de guerre. Il y en a qui ne payent pas leur dû. C'est pour ça qu'on a inventé l'impôt sur le revenu. C'est que pour tout le monde sache que tout le monde cotise de la même façon. Puisque les riches et les pauvres allaient au front, bah, tout le monde va cotiser de la même façon. Donc à partir du moment où on a cette justice-là qui se met en place, paradoxalement, à travers une guerre, et dramatiquement au travers d'une guerre, eh bien, après la guerre, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Les gens sont habitués. L'impôt sur le revenu restera. Il servira notamment, je vous dis, à payer les pensions pour les femmes, les mutilés de la guerre. Et encore, on a moins payé que ce qu'on aurait dû parce qu'on a eu la grippe espagnole qui a éliminé une partie de la population un peu malade et un peu anémiée ou gravement blessée. Alors, c'est dramatique de parler comme ça, mais c'est une réalité historique. Hein, 20 millions de morts, la grippe espagnole, hein. Aujourd'hui, il y a deux pauvres Chinois qui sont morts en Chine. Ça y est, c'est une pandémie. 20 millions de morts, vous imaginez. Si nos arrière-grands-parents arrivaient aujourd'hui, ils nous diraient « Mais vous êtes un peu fous, là. Hein. » D'autant plus que maintenant, vous avez tous les antibiotiques et tout, hein, pour vous soigner. Bref, je passe. Ceci est fondamental. Parce que quand vous avez une guerre totale, la société s'attend aussi à ce qu'il y ait une réaction totale. Or, après, qu'est-ce qui se passe? Après, on n'a pas d'État-providence qui se met en place, mis à part pour les orphelins, mis à part pour les veuves. Vous n'avez pas un État social, il n'y a pas de sécurité sociale qui se met en place. Les années folles ont dit, bon voilà, il y a de l'emploi, allez hop, on y va. Notez bien qu'on a renvoyé toutes les femmes à la maison, hein, pour que les hommes qui sortaient de la guerre puissent revenir. Ce qui crée une crise aussi, hein, parce que les femmes, tout d'un coup, elles étaient en train de travailler, puis tout d'un coup on leur dit, non, tu n'as plus le droit de travailler, tu retournes au fourneau. Ça n'a pas trop marché, hein. Mais vous avez des exemples. Il y a une société de consommation que l'on voit déjà sur les films à l'époque, hein, des années 20, hein, c'est celle des États-Unis d'Amérique. Et puis il y a un autre pays qui est aussi dominant, c'est l'Union soviétique, de l'autre côté. Il y a un régime socialiste à Moscou. Et ce régime socialiste vous promet le partage des terres, la justice pour tous, il n'y a plus de riches et de pauvres. Seulement, les années folles, c'est quoi? C'est amusons-nous. Travaillons, amusons-nous, tout va bien. Les Américains, on leur interdit de boire de l'alcool. Et soudain arrive la crise de 29.
Alors dis-moi, la crise de 29 joue-t-elle un rôle?
Ben oui, ça joue un rôle, hein. Avant la crise de 29, il y a quasiment pas de chômage. C'est un chômage, on va dire, endémique, hein. 400 000 personnes en Allemagne. On est aux environs de 500 000 personnes aux États-Unis. Voilà, ce sont plus des gens qui cherchent un travail, donc ils sont au chômage pendant un temps. Tout semble aller à partir de 1929. Le crack boursier de Wall Street, il équivaut d'ailleurs à celui de 2008, hein. Je reparlerai de celui de 2008 du crack des subprimes, mais il équivaut à celui de 2008. Tout d'un coup, tout s'effondre, et les Américains qui ont tout perdu aux États-Unis, rapatrient tous leurs investissements qu'ils avaient à travers le monde. Résultat des courses, vous avez une crise américaine qui devient une crise mondiale. C'est un choc. Et le président américain de l'époque, Hoover, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ouais, écoutez, hein, le marché fera son affaire, et un jour ou l'autre, ça ruissellera. Vieille théorie libérale d'Adam Smith, du ruissellement. Bon, le ruissellement, il vient pas. Et aux États-Unis, il y a 12 millions de chômeurs. Et en Allemagne, on est passé de 400 000 chômeurs à 6 millions de chômeurs. Et en France, on est un peu plus en retard que les autres parce qu'on est un pays plus rural, donc on n'était pas aussi industrialisé. Donc on n'a pas eu autant de fermetures d'usines. Mais en France, on est passé de quasiment 100 000 chômeurs, d'accord, à 2 millions. Donc, en l'espace de quelques années. Hein. Donc, de la même façon que ce qui s'est passé en 2008 chez nous. Hein, nombre d'entreprises qui ont fermé parce que les banques... Enfin, bon, bref. Donc, la solution... Qu'est-ce qui se passe ? Le libéralisme ne marche pas. Les Britanniques, un peu les Français aussi, ils ont dit, bah, nous, on est quand même des grands empires coloniaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du protectionnisme colonial. C'est-à-dire que la France produit pour ses colonies. Les Britanniques ont dit, bah, la Grande-Bretagne produira pour ses colonies. Quel est le premier producteur automobile du monde à l'époque? C'est la Grande-Bretagne. Hein. C'est pas encore les États-Unis, ni l'Allemagne. Hein. C'est la Grande-Bretagne. Quel est le premier producteur textile au monde? C'est pas encore le Bangladesh ou les États comme ça. C'est la Grande-Bretagne. Donc, la Grande-Bretagne se dit, je produis, je vends dans mes colonies et tout ira bien. Seulement, ça marche pas. Ça marche pas, le protectionnisme. Il y a un moment donné, il faut bien faire du commerce avec d'autres pays. Or, les autres pays sont tous en train de se fermer comme des huîtres. Vous avez l'Allemagne qui se ferme, vous avez l'Italie fasciste qui se ferme, et vous avez la France qui dit, bah, moi, je vais m'occuper aussi avec mon domaine colonial, je vais produire français, puis en vendre français dans mes colonies françaises. Et donc, ce principe ne marche pas parce que le Brésil est en crise, l'Argentine est en crise, les États-Unis sont en crise, le Canada est en crise. Donc, la solution vient des États-Unis et nous allons écouter I am a man in a constant sorrow.
In constant sorrow all through his days. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my
Donc la solution vient des États-Unis. Elle viendra du nouveau président démocrate, Franklin Delano Roosevelt, qui remporte les élections de 1932 contre la finance et les banksters. Alors ça rappelle peut-être des souvenirs à certains. Les banksters, ce sont donc les banquiers qui ont vendu des titres pas très bons, surtout pas très bons, et donc qui ont creusé donc le déficit américain et la crise économique américaine. C'est pas seulement dû d'ailleurs à des problèmes financiers, c'est aussi dû aussi au fait que les salaires n'étaient pas suffisamment élevés pour absorber la production américaine. Donc le résultat des courses, quand même, c'est 12 millions de chômeurs, 2 millions de sans-abri, parce qu'aux États-Unis il n'y a pas de sécurité sociale à l'époque, il n'y a rien. Donc avec et son le premier discours de et la première les premières décisions de Monsieur Franklin Delano Roosevelt peuvent vous paraître maintenant très dures, mais il a fait condamner 500 banquiers à aller en prison par la suite, hein, pour des contrats véreux, comme il dit, hein, puisque c'est de leur faute. Et ils prennent en fait ce qu'on appelle le New Deal, la nouvelle donne, hein, la nouvelle distribution. Nouvelle distribution. En 1934, il renchérit donc son New Deal par un deuxième New Deal qu'il appelle le Welfare Act. C'est-à-dire que c'est lui qui organise en fait les grands travaux, la route 66, les grands travaux des canaux sur le Mississippi, les embellissements, enfin les améliorations des ports. Tous ces grands travaux-là ont été initiés par l'État américain. Pas obligatoirement payé par l'État américain. C'est ça la grande différence avec un Staline ou avec un Hitler qui ont copié un peu, hein, parce que quand il voit les autoroutes américaines, Hitler il se dit « Ah, mais moi aussi, je vais faire la même chose », et donc il fait les autobahns, hein, pour copier. Et puis quand Staline, il regarde les industries américaines et les champs américains, qu'est-ce qu'il dit ? Lui, il dit « soft cause et cold cause ». Donc c'est toujours par rapport au modèle américain, hein, sauf que le problème de ces deux, hein, que ce soit Adolf Hitler ou Staline, c'est qu'il y a un déterminant qu'ils ont oublié, c'est la liberté. Hein. Donc ça y est pas chez eux. Donc en même temps, on a un Franklin Delano Roosevelt qui est fortement critiqué par un Anglais, un économiste anglais qui s'appelle Keynes, d'accord, qui est le père de l'interventionnisme étatique, parce que Keynes, lui, ce qu'il dit, c'est que, bien sûr, un État doit intervenir pour lutter contre la pauvreté, mais il doit intervenir directement. Or, aux États-Unis, notez bien, le président des États-Unis de l'époque n'a pas ces pouvoirs-là. Il n'a pas les pouvoirs d'un premier ministre britannique, ni même d'un président du conseil français de l'époque. Hein. Le président des États-Unis de l'époque est obligé de faire très attention à ce que pense son congrès. Alors on va dire que Franklin Roosevelt a eu beaucoup de chance, puisque son congrès était majoritairement pour lui. Seulement, les quelques décisions qu'il a prises, hein, comme par exemple un premier pas vers une sécurité sociale, elles ont été critiquées comme étant des décisions léninistes, hein, par la droite libérale américaine, on va dire à droite du Parti républicain. L'autre pays qui donne à réfléchir aussi, ben c'est le nôtre, c'est la France. Parce qu'en 1936, vous avez un Front populaire. Et le Front populaire, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ben, pour lutter contre la misère, ben, il faut relever les salaires pour relancer la consommation, il faut donner des droits aux gens, il faut leur donner une espérance. Une espérance. Et quand Léon Blum sera condamné par l'État de Vichy au procès d'Orion et qu'il sera condamné pour trahison, c'est quand même Léon Blum, hein, et le Front populaire qui ont relancé l'industrie aéronautique militaire française et l'armement pour justement contrer Adolf Hitler un jour. Et ben quand il sera accusé de trahison pour avoir fait les 40 heures par semaine et les congés payés, il dira, lui, je n'avais envie que d'une seule chose, c'était apporter du bonheur aux gens. Voilà, ce que n'a jamais apporté le maréchal Pétain. Le renversement de Blum, d'accord, va mettre un terme, en fait, à l'œuvre du Front populaire. Pour une raison, enfin deux, on va dire, un majeur, c'est d'une part parce qu'il n'y a plus de Front populaire, et puis l'autre côté aussi, c'est que vous avez la guerre qui avance. Et la guerre qui arrive. Et quand la guerre arrive, ben, il faut remobiliser, réarmer. Et ça, ben, ça, c'est sans les 40 heures et sans les 2 semaines de congés payés. Donc il faudra attendre l'après-guerre pour avoir à nouveau les 40 heures et les congés payés.
Et puis, il faut vaincre les nazis et les japonais, non ?
Oui, c'est vrai que la Deuxième Guerre mondiale n'a pas véritablement été favorable, a priori, pour un État-providence. Seulement, c'est à ce moment-là que va être véritablement réfléchi l'État-providence tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bien sûr que la priorité, c'est de vaincre. Mais cependant, en fin 1940, au pire moment de la guerre, hein, au moment où Churchill est tout seul, hein, il y a quelques aviateurs polonais, quelques aviateurs français, quelques aviateurs anglais qui sont dans les airs et qui luttent contre la Luftwaffe et puis l'invasion allemande. Hein. Et je rappelle qu'à l'époque, Moscou est allié d'Hitler, les communistes sont des alliés d'Adolf Hitler, les fascistes sont alliés de Hitler, le Japon est allié d'Hitler, et le Japon est déjà à Singapour. Donc, aux portes de Singapour. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Je suis au pire moment, et là, Churchill, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit cette phrase célèbre, « Je n'ai à vous offrir que du sang et des larmes. » Alors, c'est très bien, ça galvanise. Mais vous avez des mois de combat. La guerre a commencé véritablement à partir de mai 1940. Vous êtes avec des mois de combat, les Français ont été vaincus, il ne reste plus que vous, vos colonies, mais les colonies sont loin, et puis en plus il y a les U-boats qui commencent déjà à en couler les navires, et donc qu'est-ce qu'il faut ? Ben, il faut une espérance. Seulement pour avoir cette espérance-là, donner autre chose que du sang et des larmes, il faut aussi avoir un projet. Seulement pour avoir un projet, il faut y réfléchir. Et ce que fait Churchill à la fin 1940, et ça c'est assez extraordinaire, en plein combat, en plein Breeditz, alors que Londres se prend des bombes chaque nuit et chaque jour, eh bien il ordonne, écoutez-moi bien, un rapport pour lutter contre les conséquences sociales de la crise des années 30 et des conséquences sociales de la guerre. C'est-à-dire qu'en pleine guerre, il demande à un homme, et notamment ça sera William Beveridge, il demande à cet homme-là de lui faire un rapport. Et cet homme-là va mener une enquête, c'est un haut fonctionnaire, il mène des enquêtes, il a tout un groupe avec lui, et il rédige un rapport qu'il dépose au 10 Downing Street, auprès de Churchill, et qui s'appelle le premier rapport Beveridge, d'accord, où il dit la chose suivante. En pleine guerre, l'État a des devoirs vis-à-vis de la société. Lutter contre les maladies, lutter contre l'ignorance, lutter contre la dépendance, lutter contre la déchéance et lutter contre les taudis. Cette politique, pour Beveridge en 1942, doit être universelle, centralisée, pour protéger la société, écoutez-moi bien, contre elle-même. c'est-à-dire contre les égoïsmes de son élite, et c'est un homme qui appartient à l'élite, Beveridge, hein, c'est un haut bourgeois, un haut fonctionnaire, il appartient à l'élite, il sait très bien ce que l'aristocratie anglaise peut penser, hein. Je rappelle que celui qui aurait dû être roi était très proche des nazis, vous avez toute une partie de l'aristocratie britannique qui pensait qu'Adolf Hitler et sa théorie de la race étaient très bien, d'ailleurs un certain nombre d'aristocrates étaient mariés avec des hauts dignitaires nazis, voire le papa, la maman de du mari à l'heure actuelle de la reine Elisabeth. Vous avez aussi, notez bien, le communisme, qui peut être aussi un danger. Je rappelle qu'à l'époque, Staline est l'allié d'Adolf Hitler. Vous avez enfin le fascisme, qui est lui aussi un danger. Bien qu'à un moment donné, dans les années 30, il ait pu faire un peu exemplaire. C'est bien quand des jeunes sont là, à marcher au pas, le corps musclé, c'est beau. Bon, seulement à un moment donné, les démocrates, il faut aussi qu'ils réfléchissent. Au-delà de l'image, il y a aussi quelque chose de beaucoup plus grave qui se produit dans les cerveaux de ces jeunes. Donc, vous êtes dans les années les plus noires. Il faut redonner une espérance. Et l'espérance, c'est pas seulement un swing, c'est pas seulement les Américains qui arrivent, c'est pas seulement tout ça. Tout ça, c'est vrai, mais il faut aussi que vous galvanisiez vos troupes. C'est un peu comme dans un match de rugby, hein, quand on est là, que les Anglais sont en train de vous piler, que vous avez 20 points d'avance, et tout d'un coup, il y a votre entraîneur qui dit « Allez, hop, on se serre les coudes, on y a, parce qu'après, la victoire est belle. » Eh ben voilà, il faut que la victoire soit belle. Et le rebelote, on a encore un deuxième rapport, qui est toujours commandé par Winston Churchill, qui n'est pas un extrémiste de gauche, hein, je rappelle. Hein, c'est pas Mélenchon. Hein, on n'est pas dans... Et encore, Mélenchon, je ne sais pas si on peut appeler ça extrémiste de gauche. Mais on n'est pas dans quelque chose d'extrême, là, comme on pourrait le qualifier aujourd'hui, un État-providence. Eh ben en 1944, il y a un deuxième rapport Beveridge, qui dit, la condition, écoutez-moi bien, la condition de l'État-providence, c'est le plein emploi. En fait, le risque majeur, c'est le chômage de masse. Ces gens-là, ils ont connu la crise de 30. Ils ont connu la crise des années 30. Ils savent très bien pourquoi les Allemands ont voté pour Adolf Hitler. Ils n'ont pas voté par antisémitisme latent. Ils n'ont pas voté pour Mussolini ou ils n'ont pas gardé Mussolini des années comme ça. Ils n'ont pas non plus été vers le communisme parce qu'ils trouvaient super le goulag. C'est pas du tout la question. La question, c'est... Qu'est-ce qu'ils offrent ? A priori, ces totalitarismes-là offraient des sociétés où on ne réfléchissait pas, où tout le monde avait un travail, tout le monde a un travail. Ah oui, mais lui, c'est un soldat. Oui, mais il a un travail quand même. Donc, le plein emploi, c'est la seule garantie à la survie d'un État, notez bien, démocratique. Seulement, ce que disait aussi Beveridge, c'est que on ne pouvait pas avoir le plein emploi de façon autoritaire. Il fallait donc qu'il y ait une dose de, il fallait donc qu'il y ait du libéralisme dedans. C'est-à-dire que c'est une façon libérale d'avoir, en fait, le plein emploi et de garantir, en fait, à chacun, eh ben, une société, notez bien, plus juste, d'accord, et qui soit financée. Donc, et le financement est garanti par le plein emploi. Donc, ces plans concoctés à Londres, eh ben, influencent tous les mouvements de résistance. Parce que pourquoi? Parce que Londres, à l'époque, est la capitale de toutes les résistances.
Les Français libres, Serge, sont-ils influencés par ces idées ?
Alors oui, nous avons des Français libres qui sont influencés par ces idées. C'est d'abord tout ce qui est socialiste, tout ce qui est, membre de la SFIO à l'époque. Vous avez aussi la droite française qui a rejoint le général de Gaulle. N'exagérons pas. Hein. On peut pas dire que le CNR, le Conseil national de la résistance, c'était pas que des gens de gauche. Hein. On a l'impression qu'aujourd'hui il y a que des gens de la CGT et compagnie. Non, à l'intérieur du Conseil de la résistance, vous avez des CGTistes, vous avez des CFTC, ce qu'on appellerait aujourd'hui la CFDT. Enfin, en tout cas en une branche, vous avez de la SFIO, vous avez des gens de droite, vous avez des monarchistes. Hein. Je rappelle que Leclerc n'est pas, à proprement parler, ce qu'on pourrait appeler un républicain pur sou, je dirais, monsieur de Hauteclocque, hein, quand même, hein, c'est une famille noble, hein, c'était des gens qui pouvaient lire l'Action française et qui avaient été élevés aussi un peu dans une culture maurrassienne, hein, qu'on pourrait retrouver aujourd'hui, hein. D'ailleurs, François Mitterrand aussi avait été élevé dans cette dynamique-là dans sa jeunesse, hein. Donc, on a, par exemple, un Pierre Larocque, un Alexandre Parodi, qui sont des hauts fonctionnaires. Alors, on entend en ce moment, notamment un journaliste de Libération qui intervient des fois sur sur Arte, qui dit « Oui, l'État-providence est déjà sous Vichy. » Faux. Faux. Alors, il cite notamment Pierre Larocque. Pierre Larocque a fait partie du gouvernement de Vichy parce que c'est un haut fonctionnaire français. Seulement, son problème à Pierre Larocque, et ça s'est tout de suite vu, écoutez-moi bien, c'est qu'on lui a trouvé des ascendants juifs. Et à partir du moment où on vous trouve des ascendants juifs chez les Français, dans l'État français, on vous vire. Donc c'est un homme qui s'est qui a été expulsé de l'administration française et qui a donc rejoint la résistance à Lyon et qui est donc parti à partir de 1943 à Londres. Même chose pour Alexandre Parodi. C'est un haut fonctionnaire français. Il est obligé de quitter Londres parce qu'il est, enfin, il est obligé de quitter la France parce qu'il est membre d'un réseau de résistance et donc à un moment donné, il a été repéré par des miliciens français, et donc il est obligé de quitter Londres. Et donc tout ce petit monde, aux côtés de Jean Moulin, aux côtés de tant d'autres, se réunissent à Londres, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont dans des cafés. Londres, c'est pas une mégapole comme aujourd'hui. Londres, on se retrouve. Et qu'est-ce qu'on entend ? On entend le rapport Beveridge. Donc on en entend parler. Tout le monde en entend parler. Et là, ils se disent, ça c'est un super truc, le Conseil national de la résistance ne se réunit pas, c'est le bureau qui se réunit. D'accord ? Et le bureau, lui, va, dirigé par Georges Bidault, va donc décider quoi ? Nous aussi, on va avoir notre plan à nous. Et le premier plan, le plan du CNR, c'est ce qu'on appelle, il s'intitule notamment « Les jours heureux ». D'accord, il est publié le 14 mars 1944, c'est « Les jours heureux ». Alors, sachez-le quand même, dans la première partie du programme du Conseil national de la résistance, c'est tout ce qu'il faudra faire pour lutter contre les Allemands. C'est-à-dire comment on fait, quelles sont les organisations, qu'est-ce qu'il faudra faire avec les collaborateurs, voilà ce qui est dit. Et ensuite, on a une deuxième phase qui est pourquoi est-ce qu'on se bat ? Bien sûr qu'on se bat pour la République, bien sûr qu'on se bat pour les libertés, bien sûr qu'on se bat contre le nazisme, mais on se bat aussi pour une autre société. Et là, notez bien, tout le monde va se mettre d'accord à un moment donné. Les communistes, les socialistes, tout le monde se met autour de la table et tout le monde dit voilà, ce programme-là, il nous convient, communistes compris. La seule chose que disent les communistes et les socialistes, c'est sur, encore une fois, le financement, d'accord ? Les communistes, ils voudraient tout nationaliser, avec les socialistes, ils voudraient tout nationaliser. Les gens qui sont plutôt à droite ou au centre-gauche, ils disent plutôt, on veut peut-être pas tout nationaliser. Mais il n'empêche que à la libération, le patronat n'a plus rien à dire, parce que le patronat a les mains prises dans la collaboration comme jamais il n'a été pris. Donc, vous n'avez pas trop de patrons qui disent quoi que ce soit. Quand vous avez des résistants qui arrivent, qui sont membres, qu'ils soient membres d'ailleurs de combat ou des FTP ou d'autres réseaux de résistance, et qu'on dit, maintenant, au nom de la République, nous nationalisons ton entreprise, on ne dit rien. La famille Renault, elle dira rien pour la nationalisation de son entreprise. La famille Peugeot, elle a réussi à s'en sortir in extremis. Quant à d'autres familles, voilà. Donc, on est quand même dans quelque chose à la Libération qui est une préparation de ce que peut être un État-providence. Un État-providence, c'est un État qui s'occupe du développement d'un pays, de son développement économique, de son développement social, de son développement énergétique. C'est pour ça que EDF, GDF et compagnie ont été nationalisés. C'est pour que ce soit plus à la seule disposition de la finance. Si on a créé l'ENA, c'était pour avoir des fonctionnaires qui ne viennent plus seulement de la cuisse de Jupiter et de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie française. Il nous fallait des Jacques Chirac, il nous fallait des François Hollande qu'on peut critiquer aujourd'hui parce qu'ils sont énarques. Enfin, si c'est seulement pour ça, il faut voir pourquoi est-ce qu'on a créé ça. Parce qu'avant, on avait Couve de Murville et compagnie, c'est-à-dire les grandes familles aristocratiques qui avaient régné sur la diplomatie et sur la politique française. Donc là, maintenant, c'est n'importe qui. D'accord, Jacques Chirac, si vous regardez son origine, c'est pas une origine noble. D'accord, c'est plus du côté de sa femme qu'il faut aller chercher des traits de noblesse. Bien que le général de Gaulle ne parle jamais d'État-providence, il s'oppose quand même, il ne s'oppose pas aux nationalisations, mais il s'oppose à la nationalisation de toutes les banques. Et donc, à partir de ce moment-là, on a un processus, sécurité sociale, on a l'allongement de la scolarité de 13 à 16 ans, on a la constitution du collège, on a la constitution d'un État qui ne fait pas que protéger, mais qui participe au progrès général de la société. Avoir une sécurité sociale, c'est protéger tout le monde. Seulement, qui c'est qui veut pas à cette époque-là ? Là, aujourd'hui, c'est bien l'un des points du débat. À l'époque, vous avez des catégories de personnes qui n'en ont pas envie, des catégories de métiers qui n'ont pas envie de rentrer dans un système général. Le système général, vous avez qui ? Bah, vous avez les commerçants, vous avez les paysans, vous avez... Ceux-là, ils n'en ont pas envie. Pourquoi ? Bah, parce qu'il faut tout déclarer. Hein. Si vous êtes salarié, vous déclarez tout. Hein. Votre patron, il déclare tout et vous, vous déclarez tout en tant que salarié. Donc là, on ne peut pas véritablement... Alors, je ne dis pas qu'il gruge automatiquement, mais on peut quand même un peu en mettre à gauche. Il n'y avait aucun intérêt à rentrer dans quelque chose d'aussi rigide. Et puis, il y a autre chose qui s'est passé en France, contrairement à l'Angleterre. L'Angleterre a gardé ce caractère très sanitarisé, très étatique. En France, on s'est méfié de l'État tout de suite. Pourquoi la méfiance de l'État ? Bah, peut-être parce qu'on a eu Vichy aussi. Hein. Donc, on s'est méfié un peu d'un État omniprésent. Et donc, l'accord pour la sécurité sociale, c'était on est d'accord pour qu'on ait une sécurité sociale, la plus généralisée possible. Mais ensuite... Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit les partenaires sociaux qui gèrent ça. C'était une garantie contre une mainmise de l'État. C'est un contre-pouvoir contre une mainmise de l'État dans l'acceptation française. Et notez bien que tout ça, là, tout ce que je vous raconte, la sécurité sociale, tout ça, ça n'est possible qu'à une condition, c'est qu'il y ait une reprise économique. Et cette reprise économique, elle est venue par l'aide américaine du plan Marshall. Elle est venue aussi par le fait que bah, les gens ont travaillé beaucoup plus longtemps et beaucoup plus durement que ce qu'on travaille aujourd'hui. Je veux dire, pour construire des routes, il fallait énormément de bras. Pour construire des immeubles, il fallait des bras. Pour reconstruire la France de l'époque, il fallait énormément de main d'œuvre. Donc, et ça, ce type de principe, on le voit aussi en Allemagne, on le voit aux Pays-Bas, on le voit en Suède, on le voit un peu partout dans le monde. On le voit, sauf pas où, aux États-Unis.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue.
Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette.
La joie nous guette,
c'est merveilleux.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ?
Il y a des noisettes dans ce macreux.
Il y a des raisins, des rouges, des blancs,
des bleus.
Les papillons s'en vont par deux.
C'est le mille pattes, mais c'est chaussette.
Les alouettes sont des aveux.
Qu'est-ce qu'on attend ?
Qu'est-ce qu'on attend ?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
Qu'est-ce qu'on attend
pour faire la tête ?
Et qu'on répète, c'est très joyeux.
Les parapluies restent chez eux.
Les cannes s'en vont aux
cannes à usettes.
Levez la tête,
les amoureux.
Qu'est-ce qu'on attend ?
Qu'est-ce qu'on attend ?
Qu'est-ce qu'on attend ?
Qu'est-ce qu'on attend ?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
Dis-moi Serge, y a-t-il un État-providence aux États-Unis ?
Les Américains ont toujours été très sceptiques sur un État-providence au sens où nous l'entendons sur à l'ouest du continent européen. En 1945, il y a bien un projet, hein, Roosevelt, pour créer un État-providence. Seulement, le problème, c'est que le président des États-Unis va mourir. Ce président emblématique, hein, qui avait fait le New Deal, il va mourir. Et puis, le Congrès, lui, n'est plus véritablement démocrate. Il est plus républicain. Et à partir du moment où il est républicain, ben, le projet de 1945 va être sérieusement mis à mal par l'Assemblée du Congrès américain, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc, on n'a pas de projet d'État-providence avant John Fitzgerald Kennedy et Lyndon Johnson dans les années 60. John Fitzgerald Kennedy parle de nouvelles frontières. C'est pas seulement la Lune, hein, c'est aussi de nouvelles frontières sociales. Pourquoi ? Bah parce que on commence à avoir une crise. Alors on a une crise plutôt sociétale. Hein, n'oubliez pas Martin Luther King, la conquête des droits civiques, ce qui se passe dans l'Alabama, dans les États du Sud des États-Unis. Tout ça, ça marque les esprits. Ce qui marque les esprits aussi, c'est la guerre du Vietnam. Donc on est dans un État qui envoie ses boys, hein, comme nous, l'État, le gouvernement français a envoyé des jeunes jeunes en Algérie, eh bien, le gouvernement américain a envoyé des jeunes au Vietnam. Et pas un peu, hein, 150 000 au départ, 500 000 par vague successive. Donc tous les jeunes américains avaient peur de partir au Vietnam. Et à partir de ce moment-là, la donne qui a notamment été donné par Lyndon Johnson, c'était de construire une guerre, de faire la guerre contre la pauvreté, puisqu'il y a une, quand même une pauvreté malgré le plein emploi. On peut être en plein emploi et être pauvre. Il y avait une pauvreté endémique aux États-Unis. Et puis, il parlait aussi de grande société, une société plus juste. Sauf que là, c'est pareil. On tombe toujours sur le même problème. Qui finance, qui dirige? Et aux États-Unis, il y a quand même une méfiance traditionnelle, constitutionnelle vis-à-vis du pouvoir central de Washington. Écoutez bien ce qui se dit par Trump, hein, mais aussi par un certain nombre d'hommes politiques. Washington, c'est House of Cards, hein, c'est l'endroit où où tout est possible, les plus basses œuvres sont possibles, et donc c'est quasiment Sodome et Gomorre pour un certain nombre de gens qui sont partisans de la Bible, hein. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que Lyndon Johnson avait le choix? En fait, Lyndon Johnson a tellement mis d'argent dans la guerre du Vietnam, tellement mis d'argent dans la conquête spatiale. C'est très bien d'aller sur la Lune en 69, un Neil Armstrong super, génial. Mais ça a coûté des milliards. Et ces milliards qui ont été déversés sur les Vietnamiens, sur les Laotiens, sur les Cambodgiens, ces milliards qui ont été déversés dans la conquête spatiale, ils manquaient pour un développement d'universités plus libre et plus juste aux États-Unis. Qui peut faire des études aux États-Unis aujourd'hui? Notez bien que des riches. Vous êtes déjà surendetté avant même d'avoir commencé votre vie. Vous avez des gens qui auront remboursé leurs dettes jusqu'à la fin de leur vie, alors qu'ils ont à peine commencé. Notez bien que ce système de « je paye l'université » a été aussi fait par les gouvernements. Thatcher avait commencé, mais Tony Blair, après, du Parti travailliste britannique, ont bien enfoncé les clous en faisant en sorte que les universités britanniques ne soient plus les moins payantes possibles, mais les plus payantes possible. Une année à Oxford, c'est quand même 10 000 livres dans une petite université d'Oxford. Hein, vous n'êtes même pas dans la majeure. Donc oui, on a un État-providence, bien sûr. On a Medicare et le Medicare et le Medicaid. D'accord, Medicare, c'est pour les pauvres, et le Medicaid, c'est pour les vieux. C'est-à-dire que si vous avez plus de 67 ans, vous avez le droit d'être soigné gratuitement dans un hôpital. Attention, dans les hôpitaux classiques, dans les hôpitaux municipaux, tout le monde peut être soigné. Hein. Si vous arrivez un accident, vous arrivez même aux urgences, on vous donne pas la facture. Seulement, si vous êtes pas dans ces types d'hôpitaux-là, on vous fait payer des choses assez dingues. Hein. Un accouchement, c'est 20 000 $. Un accouchement sans péridurale, sans rien, hein. C'est 20 000 $. Donc 20 000 $, c'est une somme quand même. Hein. Donc est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent à chez nous? Ben non. Enfin non. Ça dépend en fait de l'état où vous êtes. Si vous êtes dans l'état de l'Illinois, vous avez une sécurité sociale qui est à peu près équivalente à celle que nous avons en France. Si vous êtes en Californie, en fonction de la ville où vous vous trouvez, vous avez une sécurité sociale qui est bien. C'est pour ça que, par exemple, les états de la Bible, hein, ceux qui sont tellement, tellement pieux, envoient leurs pauvres à San Francisco. Si un jour vous allez à San Francisco, vous verrez, à côté de Union Square, hein, là où il y a la stèle qui célèbre la fondation des Nations Unies, à San Francisco, là, vous avez un petit marché bio super sympa, mais si vous regardez derrière les commerçants, vous avez des pauvres homeless qui sont dans une désespérance incroyable, qui sont pris en charge par les services municipaux de San Francisco, et ces gens-là sont pris en considération par les services sociaux de la ville de San Francisco, pas de l'État des États-Unis, entendons-nous bien. Donc, on est plus affaire ici à des collectivités providentielles ou de sécurité sociale, plutôt qu'à des États ou un État fédéral américain providentiel. D'ailleurs, c'est un des sens du débat de la campagne d'aujourd'hui aux États-Unis. Bernie Sanders, Elizabeth Warren, par rapport au pauvre Biden qui a perdu un peu la primaire hier soir, il propose une sécurité sociale comme la sécurité sociale française, voire européenne. Et ils sont traités de bolcheviques, de socialistes. D'ailleurs, Bernie Sanders s'en amuse et il dit par exemple que lui aussi il est socialiste, alors qu'en fait il demande, écoutez-moi bien, ce que nous en tant que Français, nous avons. et je pense pas que nous soyons dans un régime socialiste au sens Europe de l'Est ou chinois du terme. Je ne suis pas dans un monde où pour avoir critiqué telle ou telle personne, on m'envoie dans un goulag. Hein. Donc faites attention au terme de dictature. En ce moment, je sais que ça fuse, on est prêt à dire tout et n'importe quoi. Bien, bah, peut-être parce qu'on n'est pas non plus des alternatives. Donc, ce qui se passe en fait, le grand problème, c'est que ce système, il s'est effondré parce qu'on a trop fait de guerre. Les Américains ont trop fait de guerre, donc ils n'ont jamais appliqué, le système social. Ils préfèrent appliquer le premier budget mondial militaire plutôt que d'avoir des universités gratuites pour ces étudiants, ce qui fait que les étudiants américains c'est impossible pour eux de faire des études longues, à moins de venir de familles riches. Et enfin, nous avons donc l'école de Chicago avec John Hayek, qui en 1944, quand Beveridge écrivait son article sur il faut le plein emploi pour garantir un État-providence, eh bien ce même John Hayek disait l'État-providence entraîne directement au fascisme. La seule chose qui est réelle, c'est le libéralisme. Et là, nous avons donc Reagan et Thatcher qui sont les ancêtres de l'actuel Trump.
Allez, sur fond de révolte, assistons-nous à la fin de l'État-providence.
Ben, c'est bien ce qu'on voudrait nous faire croire, tout comme on veut nous faire croire que gauche et droite n'existent plus. Il suffit de regarder ce qui se passe au niveau local ou national. En fait, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas automatiquement gauche et droite. Le problème, c'est quelle est la vision de la société. Quelle société voulons-nous ? Dernièrement, un élève m'envoie un message avec un homme, un SDF, dont on a brûlé les effets et la couette et les oreillers du côté de la place Marcel Pagnol. Est-ce qu'on s'est posé 5 minutes la question ? Est-ce que c'est normal que dans un pays comme le nôtre, on ait des gens qui sont encore dans la rue ? Je veux bien les mots, mais à un moment donné, il faut quand même des actes. Qui va construire les 3 millions de logements pourris qu'on a en France ? C'est pas Monsieur Tizi qui dit ça. Hein. C'est la Fondation Abbé Pierre. Je peux pas automatiquement dire que ce sont des extrémistes dangereux. Et puis notez bien, à chaque fois qu'un État n'est pas présent, que ce soit dans une campagne, que ce soit dans un quartier, vous pouvez pas remplacer l'État par des ordinateurs. Réfléchissons 2 minutes. Vous ne pouvez pas les remplacer par des ordinateurs. Vous êtes obligé d'avoir des humains devant nous, devant vous. Si je refais mes papiers, j'ai besoin d'avoir un humain. Peu m'importe de le payer, ça fera un chômeur de moins. Moins j'ai de chômeurs, plus je peux payer ma retraite. Plus j'ai de chômeurs, plus effectivement le problème se pose. Mais l'autre problème, c'est que nous regardons quand même 1% de l'humanité se gaver pendant que le restant de la population, lui, fait ce qu'il peut. Plus ou moins, avec plus ou moins de bonheur. Le problème, c'est que le bonheur, ça ne dure qu'un temps. Au premier couac, il vous arrive quelque chose qui peut être grave. La crise, c'est pas seulement pour les autres. La crise peut aussi s'abattre sur vous. Que vous soyez fonctionnaire, pas fonctionnaire, peu importe. Vous êtes malade, on nous parle d'espérance de vie. Alors moi, je veux bien. Espérance de vie à la naissance. Déjà, moi qui suis né en 1967, mon espérance de vie n'est pas la même que celui de quelqu'un qui est né en 2000. Donc, et bien fait pour ma fille, elle vivra beaucoup plus longtemps que moi. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la qualité de la vie. Seulement, on ne parle jamais de qualité de la vie. Ce sont pas des préoccupations qui marquent les gens qui décident. Les gens qui décident, ils regardent des fichiers, ils regardent des dossiers. Très bien en homme de dossier, mais en homme de vie, ça donne quoi un dossier ? Ça donne pas grand-chose. Voilà. Donc, il faudrait peut-être être un peu plus autour de la table, un peu plus conciliant et un peu moins hautain. De part et d'autre, d'ailleurs, parce que vous avez des hautains un peu partout. Un peu moins, voilà, et un peu plus fraternel. Voilà. La démocratie ne peut pas vivre sans justice sociale, disait Jaurès. Eh ben voilà, nous en sommes là. Ceux qui rejettent la violence, ils ont intérêt à faire en sorte qu'il n'y ait plus de violence. Et la seule façon de faire en sorte qu'il n'y ait plus de violence, eh bien, c'est d'assurer la justice. Salut et fraternité à tous.
Petite blague de fin d'émission, magnifique émission, très bien préparée par tes soins. Les Hautains, c'est les gens qui habitent dans les Hauts-de-France, hein ?
Bon,
allez, on se quitte avec Galaxy Song, la musique des Monty Python. Au revoir.
Billion stars, it's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick. But out by us, it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe.